des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour à tous, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Une émission que nous avons placée cette semaine sous le signe de l'enquête. Qu'elle soit racontée ou rêvée, fictive ou bien réelle, avec deux écrivains qui s'y adonnent et qui même en jouent dans leur dernier livre. Yves Ravet, avec Pas dupe aux éditions de Minuit, et Jean-Paul Kaufmann qui publie Venise à double tour aux éditions des Équateurs. Bonjour Yves Ravet.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de « Trois jours chez ma tante », « D'enlèvement avec rançon », de « Sans état d'âme » et vous publiez donc « Pas dupe » aux éditions de Minuit. Un roman qui, comme les romans suscités, semble hésiter entre le polar et la parodie de polar. Je dis parodie parce que de nombreuses références dans ce très beau et très machiavélique roman emmènent le lecteur a priori en territoire connu. Quand le livre commence, une femme blonde est morte au volant de sa voiture précipitée dans un ravin sur la route dite de Santa Clarita. Il semble qu'on soit en Californie, il semble. Aux premières heures de l'aube, son mari Salvatore Meyer est appelé sur les lieux où est déjà présent un certain Kowalski. Pourquoi ? C'est ce qui étonne Salvatore Meyer, qui lui-même étonne un certain inspecteur Costa Martin Lopez, qui veut savoir si le mari et pour quelque chose dans la mort de sa femme. Salvatore, c'est le narrateur, et il a beau marteler au lecteur qu'il aimait Tippi, c'est sa femme, comme Tippi Hedren, tout ça ne paraît pas très clair. On pense en vous lisant à la série Columbo, mais aussi à Hitchcock, La Faute, je le disais, à Tippi, l'actrice des oiseaux, mais aussi à Psychose, j'en dis pas plus pour l'instant, et au-delà, à cause des noms Kowalski ou Gladys Lamarre, comme Eddie, à la grande mythologie hollywoodienne. Vous êtes amusé à revoir tout le cinéma hollywoodien, Yves Ravet, pour ce livre qui nous fait traverser l'Atlantique. Et c'est rare aussi que vous nous fassiez traverser l'Atlantique.
Oui, mais j'ai pensé en écrivant ce roman que je devais me mettre dans une certaine situation, voilà. Et je me suis dit que finalement, si j'écrivais des livres, c'était plutôt, en définitive, par plaisir. C'est-à-dire que la condition pour que j'écrive était que, le plus souvent, que moi, je me sente bien. Et je me suis dit à un moment donné, mais qu'est-ce qui fait que à quel endroit dans ta vie, à quel moment dans ta vie, tu te sens bien et tu as envie de... Ce qui produit des fois l'envie d'écrire. Et cette réponse, je l'ai eue en me disant que j'étais vraiment bien quand je regardais des films, par exemple des films noirs et blancs des années 30, 40, et spécifiquement américains, pas parce que américains, ça pourrait être du néo-réalisme italien, je ne sais pas, mais en attendant, c'était celui-là. Et je me suis servi de cette idée comme d'un filtre. C'est-à-dire que j'ai vécu chaque événement du roman qui était en train de s'écrire, progressivement, comme si j'étais devant des acteurs des années 30, 40, par exemple, voire plus tard, bien entendu. Et c'est ce qui me permettait de visualiser des scènes, de visualiser aussi les personnages par leur physique, par leur attitude. Et puis, j'ai pu constater à ce moment-là que, en définitive, dans ce cinéma américain, sans citer de grands noms, mais bien entendu, on les a tous sur le bout de la langue, dans ce cinéma, au départ, il y a des scénaristes qui ont travaillé et qu'il est arrivé quand même que ces scénaristes soient de grands auteurs. Je pense par exemple à Faulkner, voilà. Ça m'a encouragé, si vous voulez, à penser que je pouvais peut-être moi aussi me mettre à, non pas écrire sous la forme du scénario, je ne suis pas du tout scénariste, je pense même que c'est un métier, je ne me permettrai pas comme ça de passer d'une situation à une autre, je ne franchirai pas la porte, mais il y a aussi une certaine ambiance à l'intérieur de ces films, et j'ai cette histoire de filtre qui me permettait chaque fois de réinterpréter, voilà.
Pour qu'on comprenne bien le mot de filtre, en fait, l'idée, c'est-à-dire qu'entre vous et votre roman, il y a ce filtre comme une grille à laquelle, à travers laquelle vous voyez votre roman.
Oui, qui produit l'image, par exemple, d'une séquence, on dirait parfois un chapitre, dans, et avec des personnages qui bougent, qui fabrique l'histoire en définitive sous ma direction, puisque c'est quand même moi qui suis à...
Donc un accident, écrire un accident, mais une fois passé à travers le filtre hollywoodien, bah ça donne une héroïne blonde, une voiture blanche avec des sièges rouges, un ravin et la Californie, c'est ça?
Oui, j'ai aussitôt cette image quoi de par exemple l'image d'une femme blonde, je crois que ça peut correspondre à une forme de stéréotype qu'on a eu dans ces films-là. Voyons certains, si je vous cite Hitchcock ou d'autres réalisateurs. Et puis, une voiture puissante. Ça, c'est une image aussi d'où laissent les États-Unis. Voilà.
Bonjour Jean-Paul Kaufmann.
Bonjour.
Vous comprenez quand Yves Ravet dit, voilà, il faut que je trouve la situation pour écrire dans laquelle je suis bien. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous correspond aussi quand vous travaillez?
Oui, bah, je cherche la voie juste. C'est pour ça que les 50 premières pages, je mets 2 ans à les écrire et puis les 300 autres, 8 mois. Donc, oui, il y a certainement au départ une difficulté et je suis confronté à chaque fois à ce problème-là. Mais
se sentir bien, l'idée de trouver une situation dans laquelle on est bien, parce qu'on pourrait choisir aussi l'inconfort, par exemple, le conflit intérieur extrêmement puissant. L'idée de trouver un endroit où on soit bien, où l'atmosphère soit bonne, quoi, hein, c'est ça.
D'abord, moi, je n'ai pas écrit un roman. Hein. C'est quand même important de le préciser, même si tout ce qu'on raconte devient obligatoirement une fiction, bien entendu. Donc, c'est une enquête policière, en effet, avec ses rebondissements, ses impasses, et puis aussi avec une divulgation, un dévoilement. Le problème, c'est qu'avec le livre d'Yves Ravet, on est très embêté parce que on peut pas tout révéler.
Non, surtout pas.
Et la divulgation, qui est quand même capitale, on doit se retenir quand même.
Mais chez vous non plus, Jean-Paul Kaufmann, parce que c'est vrai, vous l'avez dit, c'est une enquête policière, sans crime, même si à Venise, il y en a eu des crimes. Même Venise, plusieurs fois, était morte et l'est-elle toujours. On passe son temps, finalement, notre temps à procéder à sa résurrection permanente. Ça s'appelle Venise à double tour, donc c'est publié aux éditions des Équateurs. Et on a essayé, vraiment, on aura essayé de vous en dissuader de l'écriture de ce livre. C'est-à-dire les écrivains, la littérature qui a produit énormément sur Venise, ou qui a assez essayé de produire sur Venise en se disant à chaque fois que tout ou presque avait été écrit sur Venise. Et pourtant, vous parvenez à faire du nouveau. En enquêtant sur quoi? Sur les églises fermées de la Sérénissime, mot à bannir, selon vous, parce que ça a trop servi.
Moi, je ne l'ai employé qu'une fois. Voilà. Vous avez tout à fait raison. Oui, c'était un sujet casse-gueule, pour parler franchement. Un sujet redoutable. Venise est une ville saturée de touristes, mais surtout saturée de références. C'est certainement la ville sur laquelle on a le plus écrit, le plus de bêtises aussi, et je sollicite, j'ai certainement ajouté les miennes. Et puis, il y a toujours ce mot de Paul Morand, les canaux de Venise sont noirs comme de l'encre, et cette encre, c'est tous ces écrivains qui ont écrit sur Venise. D'ailleurs, il invite les écrivains, les auteurs, à tremper à leur tour leur plume dans cette encre-là. Donc c'était quand même un sujet périlleux.
Vous posez, Jean-Paul Kaufmann, vos bagages et vos livres dans l'île de la Giudecca, qui offre la plus belle vue sur Venise, et vous partez en quête de ces églises, les pénitents, les capucins, les zitelle, et de la raison aussi de leur fermeture, ce qui donne à votre livre le rythme, je disais, d'une enquête, d'un polar sans crime. Vous étiez venu, Jean-Paul Kaufmann, ici même, pour parler, après votre chambre noire de Longwood, de Outre-Terre, où vous retraciez le périple qui vous avait mené avec votre famille sur les traces du colonel Chabert, héros balsacien, mais d'abord, à Hello, d'abord napoléonien, donné pour mort lors de la charge de cavalerie de Murat, lors de la bataille d'Hello. C'est mon deuxième voyage à Hello, y écriviez-vous. Même sensation que la première fois, un carambolage, une curieuse façon d'être bousculé sans heurts, une sorte d'enchevêtrement qu'il sera difficile de dénouer. Est-ce le même genre d'impression que vous a donné votre enquête vénitienne? Puisque c'était un retour à Venise aussi.
Venise ne correspond absolument pas au lieu que j'évoque dans ces autres livres là que vous avez cités. C'est plutôt des lieux périphériques, des lieux incertains qui sont dans l'entre-deux. Et Venise est quasiment, enfin, un lieu tautologique évident. Donc s'attaquer à Venise dans Outre-Terre, je dis, ici, il y a une ville dont je ne parlerai jamais, c'est Venise. Et évidemment, là, il y a déjà la dénégation était là. Et finalement, j'ai réfléchi, Venise a commencé comme un lieu incertain, un non-lieu. Hein. C'était des îlots, de la boue, des marécages, des gens s'y sont réfugiés, fuyant la terre ferme. Et puis, peu à peu, bah, ils ont, au propre et au figuré, ils ont concrétiser là tous ces morceaux de terre à moitié liquide, à moitié boueux, c'est ça, on est aussi là dans l'entre-deux. Donc au fond, Venise correspondait tout à fait à ces lieux que je cherche depuis l'Arche des Kerguelen.
Et cette phrase, hein, enchevêtrement qu'il sera difficile de dénouer, ça se prête aussi bien à Venise.
Oui, tout à fait.
Et à l'enquête.
Oui, à l'enquête.
Puisqu'il s'agit de dénouer des fils à chaque fois, ou des enchevêtrements, quand on résout un crime ou quand on écrit un polar.
Oui, mais alors, c'est toujours pareil. C'est ce qui est intéressant, c'est la quête, hein, c'est pas la prise. Moi, je cite toujours ce propos d'un chevalier errant. J'aime beaucoup les romans de Chrétien de Troyes. Et un des chevaliers errants dit « Je cherche ce que je ne puis trouver ». Bah, c'est un peu sous l'invocation de cette phrase-là que j'ai écrit la plupart de mes livres. Et je trouve aussi ce que je ne cherche pas, oui, ce qu'on appelle la sérendipité. Oui. Hein, et c'est vrai qu'à Venise, il y a des lieux prohibés, interdits, et qui m'ont été offerts tout à fait par hasard, par chance, et qui n'entraient pas dans mes attributions, puisque c'était les églises fermées.
C'est intéressant cette notion de sérendipité, parce que ici même, un autre écrivain, Orhan Pamuk, prix Nobel de littérature, en a parlé à propos de son dernier roman où il s'agit de construire un puits, et de ces accidents qui se produisent quand on construit un puits, mais aussi quand on construit un roman. C'est une notion, Yves Ravet, que vous trouvez pertinente pour votre travail? Au fond, on écrit, puis il y a des accidents qui se produisent, ou tout est planifié merveilleusement quand vous écrivez une de vos enquêtes ou fausses enquêtes?
Moi, je crois que s'il y a un point commun avec la lecture de Venise à double tour de Jean-Paul Kaufmann, c'est effectivement le fait de ne pas savoir où on va. Ouais. Alors, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas où on va que les choses ne doivent pas se dérouler et qu'on n'est pas en accord avec une certaine histoire. Mais moi, c'est vrai. Alors, si je ramenais à mon travail d'écriture, quoi, sur dans l'élaboration de ce roman, je dois dire que je ne sais pas exactement, et je suis même quand même dès le début loin de savoir quel sera le dénouement de l'affaire. Ouais. Donc, parmi les protagonistes, lesquels sont en cause, ne sont pas en cause, ouais, comment vont, ce qu'ils vont devenir. Je crois que au jour le jour, ils apparaissent d'une manière qui leur est propre. Alors, je ne prétends pas que ce soit eux qui se définissent tout seuls. Je sais très bien que je suis en train de l'écrire. Cependant, il y a des choses qui peuvent arriver avec certains personnages qui n'arriveront pas avec d'autres. Ouais. Et donc, il y a un jeu qui se fait, et ça, je laisse, non pas au hasard, mais à la construction du roman en cours d'écriture, voilà, le loisir de poser les éléments qui font que, en même temps, je fais évoluer l'intrigue. Voilà.
C'est-à-dire que dans Pas dupe, vous ne saviez pas qui était le coupable vous-même?
J'avais quelques doutes. J'avais quelques doutes et je ne veux pas jouer les naïfs, mais surtout, si vous voulez, je n'étais pas certain que ce coupable que je serais censé désigner parviendrait à être toujours coupable jusqu'à la fin. C'est-à-dire que je lui ai laissé, dans mon jeu intérieur et personnel, la possibilité que d'autres que lui, puis ou qu'elle, puissent être coupables. Et donc, je ne connais pas exactement la résolution de l'intrigue. Et jusqu'au dernier moment, dans la façon dont les choses se déroulent, j'ai pour moi le sentiment que si un nouvel événement se produit, les choses peuvent changer, mais je crois que c'est comme ça dans le réel.
Ouais. Ah oui, aussi. Oui. D'ailleurs, j'ai agité comme un foulard, hein, à l'orée de cette émission, le mot enquête. C'est vrai que quand on regarde vos deux livres, donc d'un côté chez vous, Yves Ravet, vraiment un polar, ou du moins une histoire qui se présente comme un polar avec un accident mortel, hein, une femme, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, elle est morte, hein, mais on ne sait pas pourquoi sa voiture s'est retrouvée au fond de ce ravin. Il y a un suspect, un narrateur, un lieutenant de police qui mène la danse. Et chez vous, Jean-Paul Kaufmann, un homme seul, mais pas tout à fait seul, parce qu'il y a aussi une guide, hein.
Ah bah oui, Alma, si elle n'avait pas été là.
Alma, voilà.
Beaucoup de rencontres, quand même. Beaucoup de rencontres féminines.
Voilà, bah oui, toujours. Et puis Joël aussi, hein, qui vous accompagne, donc, votre épouse, parce que c'est Jean-Paul Kaufmann, hein,
le narrateur. De ne pas me décourager.
Voilà.
De ne pas céder sur son désir, selon le mot de Lacan.
Et qui essaie, lui, de résoudre l'énigme d'une ville imprenable, en entrant dans donc ces églises fermées à double tour. Et c'est drôle parce que dans Outre-Terre, là, que je mentionnais, vous partiez à la recherche d'un fantôme aussi, hein,
et d'une église.
Et d'une église. Mmh. Oui, là, c'est un autre genre de mystère, mais c'en est un quand même. Est-ce que pour vous deux, tout écrivain, vous avez commencé à en parler un peu, Yves Ravet, donc on va écouter Jean-Paul Kaufmann, qu'il fasse un roman ou un récit, peu importe d'ailleurs, est-il d'abord un enquêteur?
Bah, pour enfin moi je vais répondre pour moi personnellement, oui bien sûr, et ça occupe une part très importante dans mon travail, parce que il y a tout ce travail en amont et qui est considérable, qui est un travail d'enquête, d'imprégnation. C'est vrai qu'il y a un côté un petit peu simenonien. Je cite chaque fois dans mes livres le commissaire Maigret, qui est l'homme de l'imprégnation, là, qui est comme une éponge, qui absorbe les bruits, les odeurs, très important, les odeurs, et puis les sons, et puis qui va tout expulser, et puis ça va être, en effet, le dévoilement ou la divulgation. Mais l'enquête est capitale, et je dirais même, pour moi, je devrais pas le dire, mais c'est la partie la plus intéressante, parce que c'est vrai que lorsque je me trouve devant ma feuille de papier blanche, il faut commencer. Oui, je dois le dire, il y a une certaine morosité. Puis bon, après, les choses évoluent, mais c'est très excitant, l'enquête, d'aller voir tous ces gens, de prendre, je tenais mon journal pendant mon séjour à Venise. Et c'est vrai que lorsque c'est terminé, et on n'a pas envie que ça se termine, et il faut se borner un jour. Donc voilà, c'est pour moi la partie la plus exaltante.
Yves Ravet, est-ce que dans votre activité d'écrivain, est-ce que vous vous percevez toujours comme un enquêteur? Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que ce soit que le travail en amont, mais aussi pendant.
Oui.
Pendant qu'on écrit, jusqu'à la fin, être un enquêteur dans sa propre fiction.
Ce que vous dites, j'allais le poser sur les deux plans, c'est-à-dire en amont et durant. Et en amont, si vous voulez, c'est pas le travail de documentation, c'est surtout plutôt l'ambiance dans laquelle on peut se situer. Et puis, vous savez, quand on écrit, enfin, moi j'ai ce sentiment très fort, si vous voulez, on est une véritable, comme une éponge. On saisit toutes les informations possibles, puisqu'on n'écrit pas en un jour, ça peut durer sur un mois, deux mois, etc., etc. Et donc, on est face à des capteurs, si vous voulez, et tout ce qui, le quotidien, une marque publicitaire sur la cabine d'un camion, un visage, une émission de télévision, un regard, une chute de feuille, je ne sais quoi, c'est quelque chose, ça je l'appelle déjà l'enquête. Et puis à l'intérieur, une fois qu'on est à l'intérieur, moi étant donné que j'ai quand même posé un personnage que vous avez mentionné qui s'appelle l'inspecteur Costa, il y a certainement un petit peu de ce que je rechercherais pour ma part qui est chez ce personnage, que je le veuille ou non. Et donc, je le vois point par point éclairer et tenter d'éclairer et d'élucider chaque situation à laquelle il est confronté.
Juste une petite précision, vous dites que je le veuille ou non. Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression?
Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, alors sans prétendre, parce que je crois que ce serait une bêtise de dire que ce sont les personnages qui se dédoublent tout seuls et qui, malgré tout, quand vous avez configuré un personnage et qu'il n'est pas seulement une sorte de représentation de ce que doit être un personnage comme ça dans un roman, mais que vous sentez qu'il habite des choses profondes chez vous, il va faire se mouvoir des mécanismes intérieurs, personnels, qui font que, dans une certaine mesure, moi je parle avec les personnages, je les construis, mais je pense qu'en retour, j'ai des messages.
C'est vrai aussi pour vous, Jean-Paul Kaufmann, vous avez précisé que c'était pas un roman, que c'était un récit, mais au fond, le grand vicaire ou Alma, la guide, vous vous autorisez aussi des bifurcations en dehors du réel, de les reconstruire
tels que... Oui, bien sûr. Bah oui, évidemment. Non, mais par exemple, bon, c'est tout bête. Je demandais quand même aux gens que j'ai rencontrés, je leur disais, bon, vous allez vraisemblablement intervenir dans ce récit, mais je veux pas nommer votre nom. Et choisissez-le. Et c'est de cette façon-là, par exemple, que je peux le dire, que un des personnages que vous connaissez certainement de nom, Michel Toulouse, qui a créé un vignoble, il m'a dit aussitôt Lautrec.
Lautrec.
Quant à Alma, alors Alma, c'est il est dédié à Christine Adam. Christine Adam, c'est en fait Alma. Donc c'est parce que je n'aurais pas écrit ce livre sans son concours. Et alors. Elle m'a dit, moi j'aime bien mon prénom, il n'y a pas de raison, je vais le choisir.
Surtout pour les églises.
Ça va pas vous plaire. Et elle m'a dit, Alma, évidemment en référence à la femme de Alfred Hitchcock.
Ah très bien, d'accord.
Ah ben oui, c'est ça. Puisque c'est donc comme c'est ça que Alma j'ai Malheur, emporté... Alors. Ah non,
vous pouvez penser à Alma.
Parce que Alma Hitchcock, on s'aperçoit, vous y faites beaucoup référence quand même à Hitchcock, hein, Yves Raffet. On s'aperçoit de l'importance qu'a pu avoir la femme de Hitchcock dans les scénarios et puis dans ce processus de création. Et puis, bon, elle voulait pas être... elle dit, moi, les églises fermées, ça m'intéresse pas, quoi. Elles sont secrètes. Un secret doit être respecté, il faut qu'elle reste fermée, etc. Et en désespoir de cause, à un moment, je lui dis, bon, mais c'est un MacGuffin. Ah, si c'est un MacGuffin, alors c'est tout à fait autre chose.
Rappelez juste celles et ceux qui auraient oublié ce que c'est que le MacGuffin.
Le MacGuffin, c'est au fond, c'est Hitchcock qui a inventé ce mot, c'est la raison officielle. C'est Cary Grant qui est poursuivi par des tueurs, il a sa mallette, il y a des plans secrets, on s'en fout des plans secrets. Ce qui est intéressant, c'est que il est poursuivi. Et puis on a peur pour lui. Donc c'est ça le MacGuffin, et au fond, c'est ça qui a emporté son accord, son suffrage.
On continue avec vous, Yves Raffet et Jean-Paul Kaufmann, pas dupes aux éditions de Minuit et Venise à double tour aux éditions des Équateurs. On va davantage pénétrer le secret de vos livres. On va commencer avec vous, Yves Raffet. On écoute votre choix musical, le générique de la série The Wire.
Le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
If you walk through the garden, you better watch your back. Well, I beg your pardon, walk a straight and narrow track. If you walk with Jesus, he'll save your soul. You gotta keep the devil down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan when the thunder rolls. You gotta keep the devil
Le générique de la série The Wire, qui est le choix musical d'Yves Raffet, qui publie Pas dupe aux éditions de Minuit. Nous sommes pendant une heure avec lui et avec Jean-Paul Kaufmann, qui publie Venise à double tour aux éditions des Équateurs. Pourquoi ce choix musical, Yves Raffet? Vous êtes un grand consommateur, regardeur de séries?
Écoutez, je dois reconnaître... Si tant est que ce soit quelque chose qu'il faut reconnaître, que j'aime bien regarder, je regarde avec plaisir les séries, bien entendu, et je regarde par exemple True Detective, dont je l'ai regardé deux fois parce que j'étais intéressé, d'autant que c'est l'adaptation d'un roman que j'ai eu l'occasion de lire.
De Nick Pizzolatto.
C'est quelque chose d'assez violent, hein, faut pas. Mais bon, le principe de ce choix musical, c'est que d'une part la série, je crois que la notion de série pouvait correspondre à ce que j'avais écrit dans mon roman Pas dupe. Et puis deuxièmement, c'est cette atmosphère qui est donnée par cette voix assez profonde qui emprunte au blues, qui emprunte au rock aussi. On sent un rythme, quelque chose qui se joue. Et je crois qu'il n'y a rien de plus entraînant quand on est en train d'écrire ou lorsqu'on est en train de lire, puisque moi j'associe les deux, évidemment, c'est sur le même plan. Hein.
De quoi? D'écouter de la musique ou de regarder des séries pendant que vous écrivez vos propres livres?
entre au moment de l'écriture, je pense que je suis dans le silence absolu. Oui. Donc j'ai cette chance de pouvoir obtenir le silence.
Vous avez vu la musique s'est arrêtée au moment où vous disiez silence. Oui, merveilleux. Voilà, bravo, exemple. Bravo. Voilà.
C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et puis en même temps, entre deux phases d'écriture. C'est très bien de pouvoir se réalimenter. Moi, j'ai besoin parce que je sais que c'est de la fiction. Et je sais que j'ai des personnages, des acteurs qui jouent ce rôle-là. Les acteurs, pour moi, sont très importants parce que c'est eux qui connaissent les textes, qui sont... voilà. Et c'est aussi le désir de créer un monde différent avec ses codes, avec... Il y a quelque chose d'un peu idéal. Et c'est une violence. La violence dans la fiction ne me fait pas peur. Et je pensais à ça en parlant, quand Jean-Paul Kaufmann parle des églises, je me disais, voici un endroit, et je dis ça pour Venise, où il n'y a pas de violence, justement. Et donc, je sais que je me reconstruis un monde. Mmh. Et le système de la série, c'est quand même autre chose, c'est-à-dire que il est quand même parfois plutôt télévisuel, plutôt que grand cinéma, technicolor, enfin, etc., grand écran. Et je crois que ça apporte une... C'est une autre façon de regarder, voilà. Et c'est très séquentiel, c'est très... des éléments proches l'un de l'autre qui s'enchaînent les uns les autres. Et je crois que c'est une façon de regarder qui appartient bien aux années 2000, oui, enfin, ce qu'on est en train de vivre
et
en ce moment.
Concentré sur un petit écran.
Voilà.
Donc la violence, oui, y est démultipliée, au fond, aussi. Le rythme et par la...
Bien sûr, oui.
Alors, Pas dupe aux éditions de minuit. Un miroir, oui, exactement. Pas dupe est publié aux éditions de minuit. Ce récit, cette fiction s'ouvre sur une scène d'accident. Une femme blonde est morte au volant de sa voiture blanche au siège rouge, précipitée dans un ravin sur une route qui doit être en Californie, même si vous laissez ça... finalement, j'allais dire, dans le décor, hein, la route de Santa Clarita, aux premières heures de l'aube. Son mari s'appelle Salvatore Meyer. Il est appelé sur les lieux où est déjà présent un certain Kowalski qui, semble-t-il, avait peut-être une liaison avec sa femme. Tout ça étonne Salvatore Meyer, mais étonne encore plus l'inspecteur Costa, qui veut savoir si Salvatore y est pour quelque chose dans cet accident qui serait, dans ce cas-là, un crime. Salvatore est le narrateur, c'est ce qui est très intéressant dans Pas dupe, et il a beau marteler au lecteur qu'il aimait Tippi c'est sa femme, comme Tippi Hedren, eh bien, il a beau le dire, on le croit pas vraiment. On pense, en vous lisant, à la série Columbo, mais aussi à Hitchcock, on en parlait avec Jean-Paul Kaufmann, la faute a peut-être à ce prénom de Tippi, puisque l'actrice des oiseaux se prénommait Tippi, mais aussi à Psychose, aussi on pense à Eddie Lamar, puisque l'un de vos personnages s'appelle Gladys Lamar, et à toute la grande mythologie hollywoodienne, et pourtant il y a ce titre qui sonne comme un avertissement, pas dupe. Qui n'est pas dupe, Yves Ravet ? Qui ne doit pas être dupe ?
Ben, je crois qu'un roman qui est basé sur l'idée de la fiction nous entraîne dans un monde différent, enfin imaginé, mais en même temps, dire qu'on n'est pas dupe, c'est, je crois, ne pas oublier que le roman peut vous conduire vers l'idée du réel, vers votre... Voilà, je crois qu'un lecteur, ce que je suis en premier lieu, bien entendu, lorsqu'il aborde un texte, il est en train de lire le texte selon sa propre grille de lecture. Je parlais de filtre, ça peut être dans l'autre sens. C'est-à-dire que tel événement peut rappeler des choses personnelles chez le lecteur, par exemple. Et donc, on est dans une situation où, selon les... code, selon la façon dont on vit, si vous voulez, selon ce que nous rappelle le roman, on peut arriver à revenir sur le texte et puis l'interpréter selon sa propre façon de voir.
Mais en quoi c'est lié à l'idée de pas être dupe ? Voilà, je pensais, moi, à un marché de dupes, un marché, oui, où les dés sont pipés.
Oui, je comprends.
Est-ce qu'une fiction serait un marché de dupes ? Est-ce qu'il y a un marché entre l'écrivain et son lecteur, le narrateur et son lecteur ? En quoi cette idée de filtre que vous reprenez, oui, c'est vrai, vous en avez parlé tout à l'heure, en quoi cette idée de filtre serait liée à l'idée de pas être dupe d'une fiction ?
C'est que ce que je veux dire là, c'est que le réel vous programme vers l'inattendu. Or, quand je dis programme, ça veut dire vous conduit vers l'inattendu.
Le réel,
c'est-à-dire ça peut, dans votre vie réelle, n'importe quoi peut vous arriver. Et je crois que c'est une des leçons du roman, pas spécialement le mien, bien entendu. Et cette histoire de ne pas être dupe, je crois que ça se joue entre, d'un côté, vous avez un narrateur qui est lui-même impliqué dans l'histoire, et vous avez d'autres personnages, mais vous avez aussi le lecteur. Et je crois qu'il y a un jeu qui se fait, un aller et retour du sens qui va du lecteur au personnage, et les personnages renvoient sous la forme d'un miroir, peut-être par exemple, renvoient des images. Et donc chacun joue son propre jeu, et il est difficile de savoir dès le départ comme ça lequel joue un jeu plus approfondi que les autres, ou lequel, par exemple, pourrait être coupable. On est dans une histoire de pistes criminelles levées par cet inspecteur.
Jean-Paul Kaufmann.
Oui, alors moi j'étais passionné par ce livre parce que il pose un cas intéressant et une question très très intéressante, capitale, j'allais dire. Faut-il avoir confiance dans le narrateur, hein? Et il pose au fond la question, est-ce que, l'éternelle question, est-ce que le lecteur et l'auteur sont à égalité? En principe, oui, mais on sait bien que ce n'est pas le cas. L'auteur invisible et tout puissant d'un côté, et puis le lecteur qui est docile. Et on est un peu, bon, pardonnez-moi de vous le dire, comme dans le livre de Agatha Christie, Le meurtre de Roger Ackroyd. Il dit la vérité, Shepard. Hein, il dit la vérité, mais dit-il toute la vérité? Voilà, et c'est ça qui est passionnant dans votre livre, et qui est, j'allais dire, diabolique, parce que comme Agatha Christie, ça n'a rien à voir en même temps, oui. Hein, on n'est pas du tout dans, c'est tout à fait différent, mais dans Agatha Christie met quand même un soin à faire en sorte que le Shepard ne profère pas de mensonges. Il pêche par omission, hein, par dissimulation, mais sinon ça aurait été trop facile. Et vous c'est en cela que votre livre, j'allais dire, est diabolique, hein, parce que, bon, on est effleuré quand même par le doute, hein. Il y a ce sentiment très fort là qui monte en puissance, crescendo, de malaise.
Il y a le père aussi, le père qui vit dans la maison du couple.
Ah oui,
on se demande, voilà.
Oui, oui. Mais oui, il y a une sorte aussi de huis clos là qui est. Non, mais c'est c'est ça que ça croit. C'est ça qui est formidable aussi. Ça croit en temps.
Qu'est-ce qu'on répond à ça?
À ça, mais moi, je dois dire que c'est effectivement la réalité du roman. Je remercie Jean-Paul de dire des choses aussi mais aussi prévenantes, aussi prévenantes, parce que je crois il faut arriver armé presque, alors on va dire, mais le lecteur. Mais ce que je veux dire, c'est que dès le départ, si vous voulez, dans ma construction, parce que c'est de ce point de vue que je dois me mettre, moi, de celui qui, les questions que je me pose, et lorsque j'élabore mon personnage, je crois que j'ai parlé tout à l'heure de cette notion de plaisir que j'aurais à écrire, hein, ça c'est clair. Puis en même temps, j'écris les premières lignes. Mon personnage, d'abord, il est réveillé à 4h du matin, ce qui n'est pas très.
Alors justement.
Pas très commode.
Oui,
ensuite, il est réveillé par un appel de la police. La police, ce n'est pas évident. C'est toujours quelque chose d'inquiétant. Ensuite, le policier lui annonce que sa femme a eu un accident. Mais si je décompose bien les choses, elle a un accident, et puis ensuite, elle meurt dans l'accident. Donc c'est encore une. Et lorsqu'il arrive lui sur les lieux de l'accident, parce que c'est son premier réflexe, et je le comprends, il tombe sur l'amant de sa femme. Et il dit « depuis un certain temps ». Et je me dis en écrivant « mais maintenant, il y en a peut-être assez, quoi ». C'est-à-dire que ça veut dire quoi « depuis un certain temps » ? Ça veut dire vraiment, il a mesuré le temps. Ça veut dire, c'est en plus quelqu'un qui, avant l'accident, était déjà en train d'avoir des problèmes et peut-être de souffrir, quoi. Alors, je ne vais pas le montrer comme quelqu'un qui souffre tout le temps, mais quand même, chargé.
Et une fois que vous avez justement chargé la mule ou la barque,
on peut le dire.
Reste plus qu'à dénouer tout ça.
Là,
on parlait
après,
il faut
laisser aller.
Oui, mais il y a quand même une chose que vous avez dit tout à l'heure qui m'étonne. Moi, je pensais quand même que vous aviez la fin, vous la connaissiez.
Oui.
Parce que c'est quand même formidable, la fin.
Oui, on dit rien.
Oui, non.
Mais en fait, vous la connaissez.
C'est par, si vous voulez, il y a un faisceau d'événements qui se conjuguent et qui arrivent au moment où doit être le dénouement. Si le dénouement avait dû être autre, admettons qu'il y ait un coupable dans l'affaire, si vous voulez. À un moment donné, il est dit dans le roman, puisqu'il y a le soupçon que l'accident, voilà, c'est pas dévoilé, ça de dire que le soupçon de l'accident, c'est peut-être, dit l'inspecteur Costa, elle s'est volontairement suicidée, c'est son fait, ou peut-être quelqu'un l'a aidé à sauter le ravin. Et donc, à un moment donné, si vous voulez, là, quelqu'un dit, mais pourquoi, par exemple, étant donné qu'on a le doute éventuel sur les autres personnages, même s'ils sont peu, on a le doute, quelqu'un dit, peut-être elle a rencontré un tueur sur la route.
Oui.
Et pourquoi, juste avant son accident, n'aurait-elle pas rencontré un tueur sur la route ? Ça, je l'ai dans l'écriture. Je laisse la phrase. Mais en même temps, je n'arrive pas à produire quelqu'un, un tueur sur la route.
Oui.
Et a priori, je sais que... Mais je laisse la phrase. Oui. C'est-à-dire que je suis pas toujours certain si la phrase fonctionnait, si dans le travail d'écriture, la logique, les choses s'imbriquaient de telle manière que je puisse en avoir, moi, la conviction en même temps. Eh bien, j'y vais, quoi. J'y vais, et il y a un tueur sur la route, et peut-être que... qu'a-t-il pu se produire, quoi.
On sent, à vous écouter, Yves Ravet, le plaisir que vous avez eu à l'écrire, et le plaisir que vous donnez. Et plaisir diabolique, d'ailleurs, disait...
Il faut parler aussi de l'écriture.
Oui. Alors justement, on vous écoute lire les premières pages, en fait, les deux premières pages, Yves Ravet. Pas dupe aux éditions de Minuit.
J'ai revu Kowalski au bord du précipice, le jour où la voiture de Tipi est sortie de la route. Il contemplait le vide, l'air hagard. Je connaissais bien Kowalski. Sa profession, agent d'assurance à la compagnie Pacifique. Mais aussi, depuis pas mal de temps, amant de Tipi, ma femme, morte dans l'accident. C'est son corps à elle que je cherchais à distinguer maintenant, parmi les débris, au fond du ravin. 2 heures à peine s'étaient écoulées depuis le drame, et Kowalski était déjà là. Quant à moi, un agent de police m'avait tiré du lit pour m'annoncer que ma femme, Tipi Meyer, avait perdu la vie dans un accident de la route. Le camionneur qui franchissait le col en sens inverse, m'a dit le policier, n'avait rien vu d'autre qu'un nuage de poussière en contrebas. La voiture de Tipi accomplissait alors son dernier tonneau. Quand je suis arrivé sur les lieux, la police était là, avec les secouristes. Un agent s'est aussitôt déplacé à ma rencontre. On avait dû lui indiquer qui j'étais. Mais je me suis présenté. Salvatore Meyer, le mari, on vient de me prévenir. L'agent a hoché la tête. Je ne me souviens même pas de son nom. Pourtant, il m'a interrogé un bon moment avant de me laisser entre les mains d'inspecteur.
Merci, formidable lecture. Yves Ravet, pas dupe. Oui, c'est vrai, il y a ce style à l'économie. De phrases très courtes, avec des notions très floues, un bon moment, vous parliez, il a été l'amant de sa femme depuis un certain temps, à la fois un mélange de précision et de flou en permanence.
C'est la façon d'écrire, enfin voilà, donc si je donnais quelques éléments comme ça, je dirais simplement que je ne conserve dans le texte que ce qui est essentiel et que ce qui est indispensable. Et si il y a des choses que j'ajoute, parce que, et j'en ajoute lorsque j'ai écrit mes premières versions, ces choses-là qui peuvent être très secondaires, peuvent, à mon sens, parasiter ce qui est l'essentiel. Et j'essaie d'aller plutôt vers ce qui est essentiel, en décomposant bien les choses, c'est-à-dire en émettant cette idée que chaque mot a son poids, et chaque mot se suffit à lui-même si on arrive à le placer de manière conjecturale, quoi.
Yves Ravet, vous croyez encore dans la fiction, dans la construction d'un monde qui n'est pas forcément assujetti au réel, on a vu avec ses filtres hollywoodiens, et qui permet de jouer, en fait, avec le réel. Vous croyez encore à ce jeu-là de la fiction ?
Mais je ne crois qu'à ça. C'est-à-dire que je pense que le roman est une œuvre de fiction. Et je salue l'idée au départ du roman, la précaution, comme une précaution oratoire, que prend Jean-Paul Kaufmann quand il dit que est-ce que c'est un roman ? Je ne le prétends pas. Est-ce que c'est un journal ? Est-ce que c'est un récit ? Est-ce que c'est une expérience ? Et je crois que là, c'est déjà prendre en compte le mot roman dans sa réalité, c'est prendre ce terme-là avec des pincettes, c'est-à-dire en essayant de réfléchir à ce qu'il peut être, mais ça, c'est en respectant cette idée que c'est quelque chose qui a aujourd'hui une signification notoire, quoi. Voilà.
C'est-à-dire, et ça signifie quoi, justement, le mot roman ? La signification notoire du roman, c'est quoi pour vous ?
La signification notoire du roman, c'est d'abord fondamentalement que c'est une œuvre de fiction et qui est ensuite indépendante de tout système environnemental, quoi. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas sur... Jean-Paul Kaufmann ne dit pas « je viens écrire sur Venise ». Il l'a intériorisé et, enfin, c'est...
Alors, juste, c'est très intéressant ce que dit Bravet, Jean-Paul Kaufmann, parce que tout à l'heure, au début de l'émission, vous avez, vous, tenu à nous dire « bon, moi, je fais pas de roman, hein, c'est pas un roman ». Pourquoi, finalement, prendre tant de précautions pour nous le dire ? Et pourquoi pas y aller vraiment ? Pourquoi faire un distinguo entre récit, roman, fiction, pas fiction, comme vous l'avez fait dans cette émission et comme vous le faites aussi dans votre livre ?
Oui, mais j'ai ajouté aussi, dès lors qu'on raconte, obligatoirement, on est dans la fiction. Non, mais c'est vrai que toutes ces catégories, ces étiquettes, c'est un peu vain, en effet. Moi, j'évoque ça dans le livre. À un moment, c'est un mélange, bon, de autobiographie, récit de voyage, enquête. Oui,
il y a jeu,
un côté, et puis un
jeu,
côté... oui, jeu.
Et puis construction d'un univers absolument autonome,
oui,
comme
oui,
vous avez
oui,
dit.
Ouais. Oui, puis un côté aussi... Journaliste. Aussi, oui, hein, oui. On parlait tout à l'heure. Oui,
ouais.
Moi, je reste quand même enquêteur dans l'âme. C'était ça que j'aimais dans ce métier lorsque j'étais notamment au Matin de Paris. C'était bon, c'est banal de dire ça, mais débarquer comme ça dans la vie des gens, là, comme un flic d'ailleurs. La seule légitimité qu'on avait, c'était d'être journaliste. À cette époque-là, on était bien accueillis. C'était un âge d'or. Mais voilà, c'est aussi un travail de journaliste et puis quelqu'un aussi qui un chasseur de traces, hein, un chasseur d'empreintes et moi je me vois un peu
comme l'enquêteur Costa.
Ah oui, mais l'enquêteur Costa, il est costaud, hein. Alors, et puis il se laisse pas avoir.
Alors comme qui vous voyez vous disiez ?
Bah moi c'est très modeste, hein. Évidemment le commissaire Maigret c'est quelqu'un qui est quelqu'un de remarquable, mais il est modeste dans son approche des êtres et des situations et moi j'aime bien cette humilité que qu'il a et comme on dit la modestie est le genre d'orgueil qui déplaît le moins, bon c'est peut-être cette modestie là peut-être
qui Bravet voulait dire quelque chose.
Eh bien moi j'ai lu le récit de Jean-Paul Kaufmann comme une véritable intrigue et je trouve qu'elle est solide parce que ça part bien d'une idée d'un voyage qui a été effectué dans les années 68-69 qui sont d'ailleurs c'est bien situé, on arrive de Grèce, on visite Venise avec un certain regard qui correspond à un certain âge, et puis plus tard, des années plus tard, on y retourne. Voilà déjà une première motivation. Et donc, je veux dire, il n'y a pas un enfermement, mais ce que j'ai trouvé formidable, moi, c'est que je parle de ces personnages, parce que moi, je les ai imaginés maintenant. Mais donc, il y a un retour des personnages, parce que c'est extérieur au narrateur qui raconte l'histoire, c'est-à-dire que ils se retournent contre le narrateur. Enfin, ils font évoluer les événements, c'est-à-dire qu'ils ouvrent une église ou ils ne l'ouvrent pas, ils acceptent ou ils n'acceptent pas.
Et puis, on va en parler, il y a le grand vicaire qu'on cherche.
Et je crois que c'est... Moi, je veux venir au grand vicaire.
Ah bah voilà, très bien.
Parce que c'est un grand moment.
On écoute d'abord votre choix musical, Jean-Paul Kaufmann. Vous avez choisi « Gracias a la vida » de Violeta Parra.
Le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
Gracias a la vida de Violeta Parra, c'est le choix de Jean-Paul Kaufmann qui publie Venise à double tour aux éditions des Équateurs, qui est avec en compagnie d'Yves Ravet qui publie lui Pas dupe aux éditions de Minuit. Choix musical de Jean-Paul Kaufmann. Pourquoi
merci à la vie. Il n'y a rien de plus mélancolique que cette chanson. D'ailleurs, Violeta Parra, je crois, s'est suicidée quelques mois plus tard. Donc, c'est pas très gai tout ça. Mais j'aime beaucoup cette chanson.
Alors, je le disais, on est avec vous, Jean-Paul Kaufmann, et avec Yves Ravet autour de la notion de d'enquête, car c'est une enquête que vous racontez dans ce Venise à double tour. On vous suit en effet à Venise, dans le labyrinthe vénitien. Vous avez posé vos bagages dans l'île de la Giudecca et vous êtes en quête des églises fermées de Venise, que vous voulez vous faire ouvrir. Elles sont fermées à double tour, à triple tour, et vous avez besoin de trouver un certain nombre de personnages hein, pour faire ouvrir ces églises. Alors il y a Alma donc qui vous guide, et puis vous cherchez le grand vicaire qui a tout pouvoir peut-être pour ouvrir ces églises. Vous avez Jean-Paul Kaufmann un certain don pour le suspense aussi dans ce livre. Donc où se cache le grand vicaire? Il faut identifier ses bureaux. Il était nécessaire de donner un petit côté polar à ce livre, Jean-Paul Kaufmann, à la poursuite des églises fermées de Venise.
Les choses sont un peu passées comme cela. J'étais à la Giudecca, je suis resté plusieurs mois avec mon épouse là dans cet appartement, et j'attendais, et ça piétinait singulièrement, et ce grand vicaire s'esquivait. Moi je pensais que ça allait être un jeu d'enfant de se faire ouvrir ces églises fermées, et je ne mesurais pas la difficulté que j'allais avoir à se faire ouvrir ces églises, parce que d'une part il faut savoir que il y a pas eu de séparation de l'Église et de l'État en Italie, donc tout ça, une bonne partie des églises ouvertes et fermées relèvent de la curie vénitienne, du patriarcat de Venise, et au sein du patriarcat de Venise il m'a fallu identifier la personne justement qui avait la faculté de me faire ouvrir ou non ces églises, le gardien des clés, donc ce grand vicaire. J'ai été à sa recherche, j'ai fini par le rencontrer, et il m'a fait des promesses, il m'a dit oui, il n'y a aucun problème, je vais vous faire visiter un certain nombre d'églises, et je le rappelais en vain, et finalement, pour parler vulgairement, il m'a mené en bateau, heureusement.
En gondole peut-être.
Oui, en gondole.
Ou en vaporetto.
Non mais voilà, c'est un peu comme ça que les choses se sont passées, et puis bon, par un moment, j'ai cru que j'allais abandonné, et c'est ma femme qui m'a dit non,
Joël,
tu dois continuer, tu cites souvent Lacan, ne pas céder sur son désir, donc je me suis accroché, et c'est par la ténacité finalement que j'ai pu m'en faire ouvrir un certain nombre.
On vous écoute lire un extrait de Venise à double tour, Jean-Paul Kaufmann.
Lors de la Biennale de 2007, j'avais été vivement impressionné par une installation vidéo de Bill Viola, Océan sans rivage à Saint-Gallo, une petite église située près de la place Saint-Marc. J'ignorais alors que ce sanctuaire était toujours fermé. C'est le grand vicaire en personne qui l'a fait ouvrir. Sur un fond noir, surgissaient en boucle des personnages traversant un rideau d'eau révélé à la lumière. Une fois incarnés, ils se rendaient compte que c'était fini pour eux et disparaissaient comme s'ils étaient morts à eux-mêmes. Image de notre condition itinérante, de notre passage éphémère sur cette terre. J'ai aussi mis la main sur un livre en français, « Venise mariale », dont il a écrit la préface, le grand vicaire. Il y vante le caractère unique du patrimoine artistique de la cité. Le mot « beauté » revient à plusieurs reprises sous sa plume. Je me suis mis en rapport avec l'auteur du livre, une historienne bienveillante et enjouée, à la fois très fervente. Comment a-t-elle obtenu cette contribution qui, sans être originale, confère à son travail une légitimité? La filière arménienne m'a-t-elle simplement répondu? Elle m'a proposé de m'en faire profiter. Venise est une mafia, a-t-elle plaisanté? Elle voulait signifier par là, non évidemment, la nature criminelle des pouvoirs qui s'y exercent, mais un enchevêtrement solidaire de ceux qui comptent, excluant impitoyablement ceux qui ne font pas partie du réseau. Il faut connaître le mot de passe qui ouvre les portes. Alors, vous êtes l'élu, ironise-t-elle. Le mot de passe, je le cherche désespérément.
Voilà, donc on voit bien toute cette dimension d'enquête dans cette Venise à double tour, Jean-Paul Kaufmann. Je me souviens de votre livre, La Chambre Noire de Longwood, hein, qui était un récit aussi romancé, qui s'attachait à décrire l'exil et la détention de Napoléon Ier à Longwood House, sur l'île de Sainte-Hélène. C'est une expérience que vous mettiez à l'époque implicitement en rapport avec l'expérience de l'enfermement à laquelle vous aviez été confronté durant 3 ans au Liban. Il est souvent question de lieux justement clos, fort clos dans vos livres. Est-ce que vous écrivez, et on rejoint là d'ailleurs la dimension de l'enquête, pour sortir de la chambre ou parce que vous voulez choisir les lieux fermés à double tour dans lesquels vous choisissez d'entrer? Il y a toujours cette mécanique d'entrer quelque part pour mieux en sortir, en fait.
Bah, puisque vous y faites allusion, il est certain que depuis cette histoire-là, j'ai un problème avec l'espace. D'ailleurs, c'est pas hasard si je me suis établi dans les Landes, hein, où l'espace est infini. Mais bon, c'est vrai qu'on me parle souvent, bah, évidemment, il fallait que tu t'attaques aux églises fermées. Mais bon, il y a quand même une différence notable, c'est que ces églises-là, je me les fais ouvrir de l'extérieur. La nuance est d'importance. Hein, c'est un homme libre qui se fait ouvrir ces églises. Il n'est pas à l'intérieur. Le prisonnier, lui, à l'intérieur, quand il n'est pas enchaîné, bah, il essaie de regarder à travers le trou de la serrure. Hein, mais moi, je suis en dehors de cette église, et on va me les faire ouvrir, on va me les ouvrir. Et vous parliez, au fond, la violence, mon livre est peut-être exempt de violence, disiez-vous tout à l'heure. Eh bien, pas tout à fait, parce que vous savez, quand vous vous faites ouvrir une église qui a été fermée depuis 40-50 ans, hein, il y a un moment, en effet, de suspense, et vous avez les ténèbres, vous avez le silence, vous avez l'odeur qui vous saute littéralement à la figure. C'est très brutal. Hein, vous avez comme une compression à l'intérieur de cette église qui se libère et vous êtes véritablement en état de sidération. Oui, c'est très violent et il faut... vous avez le souffle coupé, il faut un certain temps pour que vous reprenez vos esprits. Et en effet, alors, bon, ces églises, la lumière pénètre peu à peu et puis elle renaît cette église. Et c'est ça aussi qui était intéressant dans cette quête des églises, c'est que vous les ressuscitiez un moment, un court instant, la durée de la visite pendant une demi-heure, puis après c'était fini. Alors, et c'est ça aussi, la rendre vivante. Elles ne sont pas mortes, ces églises, elles sont simplement en attente. Alors quelquefois l'attente dure depuis Napoléon Ier, hein, donc et certaines églises ont atteint un point de non-retour, on ne pourra plus les ressusciter, elles sont
c'est pour ça que vous avez choisi justement des églises plutôt que des palais ou des ou d'autres édifices, c'est-à-dire cette dimension de retrouver de faire entrer la vie en même temps qu'on ouvre la porte, quoi. Vous me forcez à dire ça parce que vous avez parlé de Lacan et qu'évidemment cette dimension est très très présente dans le livre, c'est-à-dire d'enquête sur soi-même.
Bah, Lacan, d'ailleurs, oui, je me suis rendu compte que Lacan faisait la même chose que moi. Il allait très souvent à Venise. C'était un homme de rituel. Et puis lui, tambourinait sur les églises fermées. Il était certainement beaucoup plus persuasif que moi parce qu'il parvenait à se les faire ouvrir. Et en plus de ça, il sommait le sacristain de lui apporter une échelle pour aller vérifier tel ou tel détail. Mais c'est vrai, pour répondre à votre question, d'abord, la beauté de Venise doit beaucoup à ses églises. Et ces églises que j'ai essayé de me faire ouvrir, Lacan dit qu'il y a une obscénité des églises vénitiennes. Et il a tout à fait raison. Il y a un étalage de tous ces corps extatiques, hein, ou mutilés, ou suppliciés, mais qui sont dans l'exhibition. Et il a tout à fait raison de parler d'obscénité. Mmh. Hein, et c'est ça aussi qui m'a intrigué dans ce parcours-là que Lacan lui-même a effectué. Il allait, je crois, à peu près deux fois par an à Venise, et c'était toujours le même itinéraire. Il allait voir les Jésuites pour voir le martyr de Saint-Laurent, là où il y a Saint-Laurent qui grésille, là on a l'odeur dans le nez quasiment, hein, quand on voit ce tableau.
Et vous connaissez mieux maintenant, depuis après avoir écrit Venise à double tour, Jean-Paul
Kaufmann? Moins que jamais, ouais. Parce qu'il y a quand même Venise, c'est ça, c'est tous ces lieux secrets, interdits, et on n'en vient jamais à bout.
Non mais de vous-même, je disais, est-ce que vous connaissez mieux, puisqu'il y a cette part d'enquête sur soi aussi dans ce livre?
Oui, certainement, mais bon...
Il faut
être modeste, hein, ouais. Là aussi.
Yves Ravet, vous disiez assis.
C'est une immense qualité, la modestie, mais il faut quand même reconnaître quand on connaît. J'ai entendu l'autre jour quelqu'un qui disait il faut qu'on veille à faire attention à ceux qui parlent et qui ne connaissent pas, de les distinguer de ceux qui parlent qui connaissent. Ouais. Ouais. Voilà, et je voudrais dire que c'est une merveille, enfin pour moi, connaître superficiellement quelques éléments de Venise pour m'y être rendu, c'est un approfondissement qui est quand même très très, enfin énorme, quoi.
Et pour vous, quand vous écrivez Yves Ravet, est-ce que c'est aussi une manière d'approfondir aussi le cas Ravet pour Ravet lui-même?
Après l'écriture d'un livre, après sa publication, mais surtout aussi après la réception du livre, oui, si vous voulez, vous avez des, on peut appeler ça des retours, si vous voulez, qui vous permettent quand même de comprendre ou de vous dire que c'est vous-même que vous avez fouillé, quoi, et que vous avez quand même sorti des choses particulières. Il y a une découverte quand même, oui, de sa propre histoire.
Et cette divulgation de soi-même, eh bien, c'est souvent, enfin, c'est le lecteur au fond qui, vous voyez, c'est pour ça moi que j'étais la semaine dernière au Havre, et bon, cette rencontre avec le lecteur inconnu, pour moi, je veux pas dire que c'est capital, bon, on l'écoute et il y a une révélation par rapport à soi-même, et celle-là m'importe. Ouais.
Le Havre, un petit côté Venise aussi. Merci Jean-Paul Kaufmann, merci Yves Ravet. Je rappelle le titre de vos livres, Pas dupe d'Yves Ravet, c'est aux éditions de Minuit. Venise à double tour, Jean-Paul Kaufmann, aux éditions des Équateurs. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci beaucoup.
Le temps des écrivains, c'est Anne-Catherine Lochard, Jean-Christophe Francis à la réalisation, à la technique Manuel Couturier. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook, Twitter, podcaster à l'infini cette émission sur franceculture.fr avec Yves Ravet et Jean-Paul Kaufmann.